peinture.
Transversal.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette semaine spéciale, Transversar vous propose une balade, que dis-je, un marathon culturel lyonnais.
Et par Lyon, aujourd'hui, il faut entendre Grand Lyon, puisque le parcours commence à Villeurbanne. Nous nous sommes rendus au cinéma Le Zola, qui présente la particularité d'être tenu par une association. C'est Sandrine Diaz qui nous reçoit dans ce haut lieu d'art et d'essai. La promenade continue du côté de la Croix-Rousse. La galerie Regard Sud nous a ouvert ses portes. C'est l'occasion pour nous de rencontrer Abdel Azergin, son fondateur, et de visiter l'exposition en cours. Nous sommes ensuite allés rue de Crimée, dans la galerie Françoise Besson, où se tient en ce moment une très belle exposition.
Redescendons maintenant de ces hauteurs et quittons le monde des images pour celui des livres, en allant rue Saint-Jean, où se trouve la librairie de livres anciens Diogène. On y retrouve Lionel Brabant, qui nous parle de la réputation internationale de ce lieu aux mille et un trésors. Nous quitterons ensuite le Vieux Lyon pour la Presqu'île, et vous emmènerons rue Auguste Comte, où, au sud de la place Bellecour, nous rejoindrons Guilherme Pertuis, qui nous présentera Hippocampe, une jeune revue pluridisciplinaire consacrée aux arts visuels, à la philosophie et à la littérature.
Embarquement immédiat, suivez Transversar.
Et nous voici donc pour Émile Zola, devant le cinéma Le Zola à Villeurbanne, qui est encore fermé sono.
Oui, bonjour, c'est Nina Léger. J'ai un rendez-vous avec Sandrine Diaz pour un entretien.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Sandrine.
Enchantée.
Enchantée. Je vous invite à me suivre.
Donc Sandrine Diaz, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Donc directrice de la salle du cinéma Le Zola.
Oui.
Qui a été créé, j'ai vu sur votre site, dans les années 20.
Alors le bâtiment existe, oui, depuis les années 20. Effectivement, c'était déjà une salle de cinéma qui n'a pas été tout le temps ouverte sur toute cette période. Je crois qu'elle a été fermée dans les années 70, après réouverte, un petit peu refermée. Et puis ensuite, c'est une association qui s'est créée, qui s'appelle Association pour le cinéma, et qui avait envie de reprendre l'activité cinématographique. Donc ça, ça a eu lieu, enfin, l'association a été créée au début des années 80.
D'accord, donc un statut quand même très particulier.
Oui.
Et d'ailleurs, donc la plupart des gens qui gèrent ce cinéma travaillent de manière bénévole, c'est ça?
Alors, il y a une petite subtilité. C'est une association qui s'occupe de la salle, mais il y a une équipe de salariés qui travaillent pour cette association. Donc oui, effectivement, il y a une association qui est, on va dire, la tête dirigeante, qui donne les grandes lignes éditoriales.
Alors justement, cette ligne éditoriale, cette politique de programmation, est-ce que vous pourriez nous... Ça en parle un peu plus, parce que là, par exemple, les films qui étaient à l'affiche cette semaine, il y avait tout autant Black Swan que j'ai vu une diffusion d'un film de Cassavetes.
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est ce qu'on appelle un mono-écran. Donc, on n'a qu'un
D'accord.
seul écran, une seule
oui,
salle de 240 places avec un balcon. Donc, c'est une très belle salle un peu à l'ancienne. C'est vrai que des salles de cette configuration-là, il y en a de moins en moins. On a une programmation plutôt art et essai. Il faut savoir que le CNC, le Centre National du Cinéma, donc décerne des classements aux établissements cinématographiques. Donc nous, on est classé art et essai et le complète par des labels. Il en existe trois, on a les trois, donc on est très contents. Un label qui concerne le jeune public, un label qui concerne les films de patrimoine et un autre qui concerne les films de recherche et découverte. Après, on a une activité en direction du jeune public et du public scolaire qui est très, très développée, puisqu'on a au sein de notre équipe une personne qui travaille à temps plein sur cette question-là d'éducation à l'image. Donc voilà, pour expliquer le label jeune public. Le label patrimoine, lui, valorise le travail qu'on fait en direction des films, on va dire des classiques du cinéma. Donc vous parliez du film de Cassavetes, effectivement, ça fait partie de notre programmation où on donne un rendez-vous régulier à nos spectateurs pour découvrir ou redécouvrir un grand classique du cinéma. Et puis le label Recherche et Découverte est un label un peu moins connu parce que lui met en avant, on va dire, la programmation RSA un petit peu plus pointue, un peu différente. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce classement RSA et ces labels sont remis en question chaque année.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'ils sont pas acquis
comme
à vie.
Comme les étoiles pour les restaurants, il faut...
Un petit peu, oui, on est un peu sur le même principe, effectivement. Donc ça veut dire que ça nous oblige, et tant mieux aussi, à toujours bien travailler notre programmation, à garder cette ligne éditoriale à l'horizon.
Et d'ailleurs, en parallèle donc, de cette programmation qui court sur toute l'année, vous développez des festivals. Il y en a trois principaux, je crois, dont un, le festival Reflet de...
Du cinéma ibérique et latino-américain, effectivement. Alors c'est vrai que pour une monosalle, on a quand même trois festivals, ce qui est beaucoup par rapport à notre activité. Celui qui va arriver très prochainement, mercredi 16, donc les Reflets du cinéma ibérique et latino-américain, qui dure 15 jours, donc ça c'est vraiment le plus gros festival pour nous, qui aura lieu donc du 16 au 30 mars. Et puis ensuite dans l'année, on a au mois de novembre un festival consacré au court-métrage, donc là qui dure 10 jours, qui est classé parmi les 5 festivals qui comptent vraiment au niveau du court-métrage en France.
D'accord.
Et puis un petit dernier, petit parce qu'il dure une semaine, mais quand même, et qui a lieu généralement tout début février, et qui est consacré au cinéma britannique et irlandais, qui s'appelle Cine O'Clock.
Alors peut-être simplement juste comme... Cette émission qu'on enregistre à l'avance sera précisément diffusée le mercredi 16.
Oui.
Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, donner peut-être quelques points de repère pour ce festival qui arrive ?
Dans les grandes lignes, il faut savoir qu'on a des films qui viennent, qui sont vraiment des inédits. Donc il y a évidemment une part belle qui est laissée aux avant-premières. Donc on a vraiment la chance d'avoir, enfin, notamment le prochain film d'Alex de la Iglesia. Et puis toute cette quinzaine est ponctuée d'animations, de rencontres, de débats. Et puis il y a aussi des animations beaucoup plus festives avec des concerts, des rencontres, voilà, dans différents lieux partenaires du festival. Et on termine le 30 mars avec la fiesta de clôture, la fiesta qui est en fait le rendez-vous de fin de festival où tous les amateurs se retrouvent. Donc ça, c'est une soirée vraiment plus dansante, musique, voilà, qui se termine généralement assez tard.
De toute manière, on mettra tous les liens sur notre site pour qu'on puisse voir précisément le programme.
Ouais.
Et alors, j'aurais une dernière question à vous poser, qui est plus comme cette édition est consacrée à Lyon, peut-être une question plus géographique en quelque sorte. Donc vous êtes à Villeurbanne.
Oui.
J'ai vu que visiblement avant, dans les années 50, il y avait 16 salles de cinéma. Et que maintenant, il n'y a plus que deux salles, dont la vôtre.
Oui.
Et une autre salle qui est à la médiathèque, c'est ça ?
Non, à Bellecombe, mais qui est une petite salle familiale, en fait.
Oui, hein, qui a quand même un statut un peu particulier.
Oui, oui.
Et donc, je me demandais, voilà, comment vous viviez cette situation ? Est-ce que, finalement, votre rayonnement est plutôt local ? Fait que vous soyez devenue une institution locale profitant de son, de son implantation à Villeurbanne ? Ou est-ce qu'il y a un sentiment de périphérie vis-à-vis de Lyon ? Ou est-ce qu'au contraire, un cinéma comme le Zola ne pourrait pas résister à Lyon, où l'offre avec des grosses UGC, etc., est beaucoup plus importante ? Qu'en est-il, voilà, de cette relation à l'espace ?
C'est un peu les deux. Alors effectivement, pour rester au niveau local, c'est le dernier cinéma implanté à Villeurbanne. Donc c'est vrai que, comme vous le disiez très justement, à une époque, il y en avait vraiment beaucoup dans différents quartiers. Voilà, c'est la dernière salle en activité à Villeurbanne. Donc c'est vrai qu'on a des spectateurs qui sont vraiment proches géographiquement de nous. Mais après, comme on a une vraie proximité aussi avec Lyon, puisque on est à une station de métro de Lyon, hein, on a un public aussi qui vient de l'extérieur. Donc c'est vrai que nous, on touche ce public local, mais on a aussi un public très cinéphile qui navigue vraiment entre les différentes salles de Lyon. Donc c'est vrai que après je peux pas nier effectivement l'impact des multiplex, parce qu'il est réel.
Bien sûr.
Réel et assez assez lourd aussi. Comme je vous le disais, comme on n'a qu'une seule salle, c'est aussi très compliqué de pouvoir lutter, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes outils, évidemment. Donc un multiplex qui aurait entre 10 et 14 salles a beaucoup plus de facilité d'accéder aux copies que nous. C'est vrai qu'on a toujours un peu d'inquiétude par rapport à l'avenir, parce qu'en plus là c'est une période de bouleversement technique.
Bien
puisque
sûr,
la plupart...
J'imagine que la question du numérique se
exactement.
Pose quand on a une seule salle. Qu'est-ce
qu'on fait ? Toute façon, c'est même pas qu'elle se pose, elle s'impose, puisqu'on n'a pas le choix. Le passage au numérique est obligatoire.
D'accord.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un vrai bouleversement pour les exploitants de cinéma, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une technologie qui, à la base, a été poussée par les gros distributeurs américains. Cette évolution technique est imposée aux salles et les principaux bénéficiaires vont en être les distributeurs, puisqu'ils vont faire des économies sur le tirage de leurs copies argentiques 35 mm, pellicule, qui d'ici quelques années, même assez rapidement, ne se feront plus, quoi.
D'accord.
Donc, obligatoire pour les salles, si on ne s'équipe pas en numérique, on disparaîtra.
D'accord.
C'est vrai que par rapport au public, il y a quand même cette subtilité, enfin qui est plus qu'une subtilité, mais cette chose à comprendre quand même, et qui a un vrai impact sur la pérennité de certaines salles, qui pourraient avoir notre profil par exemple, puisque forcément c'est une structure un peu plus fragile qu'un multiplex, puisqu'il faut savoir que c'est un équipement qui est extrêmement coûteux, qui est aux alentours de 80 000 euros uniquement. Projecteurs, sans compter tous les réaménagements et travaux qu'il faut prévoir pour les cabines de projection, qui sont pour la plupart pas adaptées à ce matériel-là.
Et une question vraiment de néophyte,
oui.
Ce passage au numérique, est-ce que ça risquerait de remettre en cause la programmation, par exemple justement de patrimoine? Est-ce qu'on sait si des anciennes copies vont être transformées en numérique? Sans doute que c'est très facile et que ça sera fait pour tous. Ou est-ce que certains films risquent du coup de pas bénéficier de cette transformation qui, j'imagine, relève pour le coup des producteurs?
Oui. Alors, je pense que la question de la numérisation des films de patrimoine est en cours et certains peuvent le faire sans problème. Après, il y a effectivement des questions financières qui rentrent en ligne de compte. Je pense que c'est pas être simple, même pour certains distributeurs, puisque là aussi, enfin, comme on peut constater des disparités dans le monde de l'exploitation, il y a aussi la même chose dans le monde de la distribution. On a des très gros distributeurs de films, des moyens et des plus petits. Donc il y a ce rapport aussi de fragilité entre la diversité des structures qui est mise au jour. C'est vrai que la question du numérique, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, comme on dit, parce que c'est un peu l'effet domino. C'est pour ça que c'est un peu dur. On n'a pas le choix. C'est l'évolution, on ne peut pas la refuser. Mais c'est vrai que l'impact n'est pas réparti équitablement sur les différents opérateurs de la chaîne de l'audiovisuel.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui aura dépassé le cadre du Zola, mais qui n'en était que plus intéressant.
Merci.
Puis on espère que le passage, même s'il doit être rude, se fera sans trop d'encombre.
Il se fera, de toute façon, il est dans les tuyaux pour nous, oui. On espère d'ici la fin de l'année.
Bon, bah, bon courage alors, et puis bon festival aussi.
Merci beaucoup.
Une demi-heure plus tard...
Abdelazar Guine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur artistique de la galerie Regard Sur.
Regard
Sud, pardon, excusez-moi. Vous savez pourquoi je fais la faute? Parce qu'on a une émission à la radio qui s'appelle Regard Sur.
D'accord. Donc un regard sur le Sud.
Voilà, Regard Sur le Sud. Simplement pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter... Regard Sud.
Regard Sud a été créé en 98, donc j'ai créé cette association qui a reçu le parrainage de Rachida, chanteur, Yamina Benguigui, réalisatrice, Rachid Bouchareb, réalisateur également, l'Institut de Lumière, la Maison de l'Orient Méditerranéen, avec les objectifs de promouvoir les artistes, les cultures des pays du Sud, et aussi d'autres pays, bien entendu. Quoi. Voilà, donc Regard Sud, c'est né dans cette histoire-là. Quoi. Et la première manifestation, en 1998, c'était dans le cadre de la Biennale de la Danse. C'était sur le thème de la Méditerranée. Et là, pour moi, c'était un clin d'œil sur le thème de l'Algérie, sur ce qui se passait en Algérie. Et c'est de donner un autre regard sur ce qu'on pouvait voir à la télévision, ce qu'on racontait à la radio, même si effectivement c'est des choses vraies. Mais je vais donner un autre regard que l'histoire de la guerre. Donc j'ai exposé un collectif d'artistes. J'avais soumis un projet à Guy Darmet, qui est directeur de la Biennale de la Danse. Et donc ça a été une exposition collective d'artistes, dont certains très connus, comme Rachid Kimoun. Donc il y avait des sculpteurs, il y avait des plasticiens, photographes. Donc il y avait un collectif de 7 artistes qui ont exposé à la Maison de la Danse. Ça c'était 1998, c'était le premier gros bel événement. Quoi. Donc voilà, un jour il y a un concours de circonstances, au hasard. Donc on a trouvé ce lieu qui est aussi la base de Regard Sud, qui est rue des Parpontés. Et voilà, depuis novembre 2000. Voilà.
Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous, le fait que ce soit dans le quartier de la Croix-Rousse et pas ailleurs?
Bon, vous savez, le quartier de la Croix-Rousse, moi, j'habite là depuis 25 ans, on va dire. C'est un quartier que je connais depuis très très longtemps, quoi. Un quartier que j'ai vu, évoluer aussi. Et c'est parce que c'est un vivier aussi artistique, underground, hein, on disait, c'est un quartier underground, en marge. Il n'y a pas d'équivalent, on va dire, à Lyon, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était un quartier pour moi où je devais m'installer, quoi. Voilà.
Est-ce que vous pourriez évoquer en quelques mots le fonctionnement de la galerie et parler peut-être plus longuement là, de l'exposition du moment?
Oui. Bah, la galerie, donc, je vous ai dit, existe depuis novembre 2000. Depuis novembre 2000, il y a une quarantaine d'expositions qui ont été industrialisées au sein de la galerie et dans les murs. Quoi. Donc d'artistes des pays du Maghreb, du Moyen-Orient, mais aussi d'ailleurs, aussi en général. Quoi. La sculpture, des plasticiens, des photographes. C'était aussi la création que je disais tout à l'heure. Celui de Regard Sud, j'ai créé une biennale qui s'appelle Lyon, les villes de soins, où c'était une première à Lyon en région, où j'ai associé à la fois des galeries, mais aussi des musées, sur le thème de la soie à Lyon, quoi, et dans la région. Quant à l'exposition actuelle, on présente une photographe très talentueuse qui s'appelle Agnès Propec. Et ce qu'on présente actuellement, c'est la première fois qu'elle expose à Lyon. C'est une rétrospective de son travail sur une période de 15 ans. Donc Agnès Propec, c'est une photographe. Enfin, avant tout, c'est ce qu'elle dit en tout cas de son travail. Elle est plasticienne, elle fait un travail de création, elle cherche une idée. Enfin, son travail photographique demande beaucoup de temps d'élaboration, de recherche. Bien sûr qu'elle est photographe à la fin, mais elle est aussi chercheuse et plasticienne. Elle prend des choses du quotidien, des objets, partant d'une idée pour fabriquer et construire comme un peintre, comme un plasticien. Et la photographie vient à la fin, quoi. C'est un travail en argentique, c'est tout de l'argentique. Avec des petits formats, comme ça, elle arrive à raconter des histoires. Il y a un travail qui touche les gens en général.
Est-ce qu'on pourrait évoquer votre bel événement cinématographique qui a lieu
oui.
tous les ans?
Le bel événement cinématographique, ça va être la 11e édition Fenêtre sur le cinéma du Sud. Et c'est une belle collaboration avec l'Institut Lumière. Donc cette année, la 11e édition, elle est parrainée par Malek Bensmaïl, qui est un jeune cinéaste d'origine algérienne. Et donc il y aura des films de réalisateurs des pays du Maghreb, c'est en plein d'actualité en plus, avec des films d'Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi du Moyen-Orient, Liban, Irak, Palestine et Israël. Bon, je souhaitais aussi ouvrir cette programmation à un cinéaste qui s'appelle Avim Ograbi, qui est d'origine israélienne et pour qui le cinéma est aussi une arme pour la liberté, on a question. Et on va faire en ouverture, il y aura un hommage à un cinéaste tunisien qui s'appelle Mustapha Asnaoui, qui est décédé dernièrement au mois de janvier, avec deux documentaires de lui. Donc voilà, en fait, le festival, il va y avoir 14 films, longs métrages, documentaires et fictions, avec de nombreux invités qui sont présents, quoi. Donc ça va se passer à l'Institut Lumière. Et donc les dates, c'est du mardi 5 au dimanche 10 avril.
Avant même ce festival de cinéma, tout le monde peut aller voir l'exposition d'Agnès Propec jusqu'au 4 avril, c'est ça? Ou au 2 avril?
On a prolongé l'exposition jusqu'au 22 avril. Et il y aura une signature de son livre. Donc on invite toutes les personnes à venir. Donc à la Galerie Regard Sud, je rappelle l'adresse, c'est 3 rue des Pierres Plantées, 69 001 Lyon. C'est métro Croix-Rousse.
Oui, c'est juste à côté. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Alors, est-ce que c'est bien le 10 rue de Crimée? Ouais, on y va. Là, il faut sonner avant de rentrer. Françoise Besson, bonjour.
Bonjour.
Donc, nous nous trouvons dans votre galerie rue de Crimée et, si j'ai bien compris, juste à côté de votre maison.
Tout à fait.
De l'autre côté de votre maison. Alors, pour commencer, tout simplement, depuis quand êtes-vous là? Depuis quand votre galerie est ouverte?
Alors, la galerie Françoise Besson existe maintenant depuis 5 ans.
Ouais.
Mais le nouvel espace a été créé en fait en septembre 2009. Donc ça fera dans rue de Crimée en fait 2 ans en septembre.
D'accord.
Mais la galerie existe depuis 5 ans.
Et qu'est-ce que c'est ce nouvel espace?
Alors en fait ce nouvel espace donc est réparti en 3 espaces. Vous avez donc la galerie au 10 rue de Crimée qui donne sur rue. À côté, il y a l'espace bon plus privé qui est notre maison dans laquelle on habite. Et puis à l'étage, il y a aussi un cabinet d'estampes et qui sert aussi à des rendez-vous littéraires, cabinet d'estampes et de dessin, et qui sert aussi de gîte pour accueillir amateurs d'art, résidences d'artistes, collectionneurs. Donc c'est aussi cette notion d'accueil que j'aime aussi développer en fait à la galerie.
Votre galerie est non seulement un lieu d'exposition, mais un lieu de rencontre.
Tout à fait.
Et pas seulement d'artistes entre eux, mais aussi donc vous faites partager le public. Et si je comprends bien, les liens entre littérature et art sont
Voilà, tout à fait. L'idée, vu que j'aimais beaucoup la poésie et la littérature, j'avais très envie d'ouvrir, en fait, l'art contemporain à l'accueil d'écrivains comme Michel Butor, Pierre Autin-Grenier, parce qu'il habite en face. Donc, l'idée est toujours en lien, quand même, avec ce que je défends, c'est-à-dire le dessin, la peinture, le papier, l'estampe. Et effectivement, je trouvais que de l'ouvrir à la littérature, c'était très intéressant, puisque ça amène aussi un nouveau public. Et du coup, ça permet aussi de favoriser les échanges, les passerelles, entre même les rencontres entre les gens. Et voilà, donc on a inauguré ça en décembre. Il y aura 4 rendez-vous littéraires, oui. Un par saison, un peu comme les 4 saisons. Donc la rencontre de l'été, la rencontre de l'automne, la rencontre du printemps prochainement. Et toujours avec un petit accrochage personnalisé en fonction de la personne de l'écrivain qui va être accueilli.
Et là, qu'est-ce qu'on voit finalement autour de nous ?
Actuellement est présenté, donc je défends le travail d'un Berlinois d'origine russe, né en Ukraine, Aralim Piroshakov. Donc vous avez une série, c'est une rétrospective, on va dire, sur ces 30 dernières années. Donc essentiellement des dessins, à l'exception de 2 peintures. C'est un artiste qui appartient, on va dire, à l'avant-garde berlinoise, qui est très proche de Baselitz, Peter Doig. Donc on va dire, c'est un historique. Hein, c'est un artiste, on va dire, c'est l'artiste le plus coté de la galerie. Et l'idée, c'était en fait de collaborer avec cette galerie à Berlin, de collaborer aussi en Europe avec d'autres galeries internationales, et de pouvoir en fait offrir au public lyonnais des œuvres d'un artiste berlinois qu'on ne connaît pas du tout. Si vous vous déplacez, il y a souvent une référence aussi à la littérature, comme par exemple dans le grand format, Jacques Zola, donc une œuvre assez engagée. Celle-ci, par exemple, Duchamp face à la semeuse de millet. Vous avez déjà la problématique, on va dire, du ready-made, de l'œuvre conceptuelle face à la peinture figurative, je veux dire à la peinture, donc vous, sur l'échiquier surréaliste. Donc voilà, un propos, on va dire, d'un artiste. Donc ça, c'est un de ses premiers dessins qu'il a fait à la sortie des Beaux-Arts en 76. Et en fait, on déambule, si vous voulez, de sa période de Double Cross. Puis ensuite, vous allez donc passer, déambuler devant une série de collages. Et puis 2004 jusqu'à 2010, avec ce mur plus coloré, plus léger. Donc c'est une œuvre qui est très intéressante, qui marque une époque, plus les années 80-90. Mais l'enjeu était de faire découvrir cet artiste et de le défendre à Lyon, où il n'avait jamais été en fait montré.
Pourriez-vous décrire votre journée quotidienne à la galerie ?
Le matin, en fait, c'est je lis la presse, les journaux, on va dire Art Presse, Beaux-Arts Magazine, l'actualité un peu de art contemporain. Et puis ensuite, bien sûr, l'accueil du public, l'ouverture à 14h30 de la galerie, qui a aussi faire la médiation des expos. Il peut y avoir des professeurs, il peut y avoir des... Donc là, j'ai un public très extrêmement varié. On va dire de 7 à 77 ans, hein, donc je peux accueillir des publics adultes, des publics enfants, des collectionneurs, des amateurs d'art. C'est extrêmement varié en fait. Lundi et mardi, la galerie est enfermée. Je les consacre plus à de la recherche, de la visite d'ateliers d'artistes et aussi à organiser des foires, c'est-à-dire préparer des dossiers pour préparer des foires à Bâle, à Paris. On sera prochainement au Louvre à la fin du mois, Carousel du Louvre du 23 au 28 mars.
D'accord, donc vous avez un travail hors les murs assez important.
Oui, un travail hors les murs assez important. Et puis surtout, on édite à chaque fois une publication que je vais vous offrir.
D'accord,
d'ailleurs.
C'est gentil.
Donc ça permet vraiment d'avoir, un aperçu.
Et quelle est votre relation à votre quartier ?
Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'à la Croix-Rousse, c'est une ambiance. Effectivement, il y a beaucoup d'ateliers d'artistes. C'est un quartier qui a vraiment une âme, presque villageoise. Et c'est vrai que... un public, pas mal de Parisiens qui viennent en fait habiter ici. Et du coup, c'est vrai, un public effectivement très sensible à l'art contemporain. Donc c'est vrai que d'être implanté à la Croix-Rousse, c'est intéressant pour moi parce qu'en fait, il y a aussi une clientèle qui vient s'installer, qui vient de l'étranger ou qui vient de Paris. Et c'est vrai que qui est plutôt une clientèle qui est sensible et qui est intéressée par l'achat des stands de dessins et d'art contemporain. C'est plutôt intéressant en tout cas pour une galerie comme la mienne.
Donc ça, c'était le volet très positif. Quelle est votre relation à Lyon ? D'un côté, est-ce que vous sentez que votre galerie a une identité lyonnaise ? Et quel est finalement votre sentiment ? Parce que vous êtes un lieu d'art, mais oui. Vous n'êtes pas à Paris.
C'est vrai que c'est une galerie qui n'est pas à Paris, Mais en même temps, on existe à Paris par les foires. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une identité effectivement lyonnaise. Tout le monde connaît la galerie Françoise Besson à Lyon. Mais c'est vrai qu'à Paris, grâce aux foires, l'identité de la galerie est en train vraiment de se développer sur d'autres territoires, comme la Suisse, à Arbazol, comme à Bruxelles, si on, pour la foire à Bruxelles, ou comme le Salon du dessin contemporain au Carrousel du Louvre. Donc là, il y a une vraie volonté de développer quand même la galerie. Et ça, les foires, c'est un excellent moyen. Les salons sont, c'est un excellent moyen, en tout cas, pour pouvoir donner accès et développer, bien sûr, les artistes, parce que donner à voir les œuvres de tous les artistes de la galerie ailleurs que Lyon.
Mais en tout cas, on va bien mettre en évidence votre adresse sur le site de Transistor.
Eh ben, merci beaucoup.
Moi, je vais commencer par visiter et j'encourage tout le monde à venir visiter, donc 10 rue de Crimée. Si
eh
je
ben,
me trompe pas.
Je vous remercie en tout cas pour
merci
cette interview.
Vous.
Longue vie en tout cas à votre web radio et puis au plaisir de se revoir à une nouvelle prochaine exposition ou hors les murs ou au prochain salon.
Rue Saint-Jean, oui.
Ouais.
Diogène. Donc on est au numéro.
On est au numéro 29.
Diogène, livre ancien et moderne, voilà. Achat, vente, estimation.
C'est des
bonjour.
Bonjour.
Nous sommes Transistor, la radio. On avait pris rendez-vous pour un entretien.
Monsieur Brabant, je vais le prévenir.
D'accord.
Très bien.
Merci.
Il y a un client.
Donc c'est l'ONS, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est là où une web radio qu'on a fondée il y a à la rentrée dernière.
D'accord.
Transistor, donc on peut écouter sur le site internet dont je vous donnerai l'adresse pour que vous
d'accord.
puissiez vous entendre. Et donc on voulait faire une semaine spéciale où toutes les émissions consacraient leur programme à Lyon.
Et nous, dans la rubrique culture, du coup, on a décidé de faire une sorte de balade lyonnaise, donc d'aller dans des lieux qu'on regarde et dans lesquels on ne s'arrête pas forcément.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire comment le projet Diogène est né et quand est-ce qu'il est né?
Alors, il est né il y a 38 ans, d'une toute petite boutique et qui faisait des livres d'occasion à partir du fondateur, qui n'était pas moi, qui a vendu ses propres livres pour commencer. Voilà, c'est un étudiant en philo, il a mis sa bibliothèque de philosophie dans les rayons et puis il a commencé comme ça.
Et donc au fur et à mesure, alors, le spectre s'est élargi.
Oui, il s'est passé qu'à Lyon, à cette époque-là, il y avait 5 ou 6 grands libraires en ancien qui ont tous pris leur retraite à peu près en même temps. Donc le fondateur, Christian, s'est dit qu'il allait se lancer aussi dans le livre ancien. Il a commencé comme ça. Et puis je suis arrivé après, on a ouvert cette pièce. Et puis ensuite, on a ouvert l'étage, ouvert le sous-sol, acheté à côté et pris un dépôt dans le quartier, ce qui fait de nous la première ou deuxième librairie d'occasion ex aequo en France.
Donc institution lyonnaise, mais même française, du coup.
Voilà, oui, parce qu'on a à peu près 140 000 volumes, ce qui commence à faire beaucoup.
Oui. Et quelle est la lignée éditoriale que vous poursuivez?
Le plus de livres possible dans tous les domaines.
La diversité.
Ouais,
la...
Nous sommes une librairie généraliste avec. Il y a plus de 400, vous voyez, tout est étiqueté.
Paris, Bourgogne, Auvergne, ouais. Voyage.
Il y a plus de 400 thèmes différenciés. Et moi, ce que j'aime dans la librairie ancienne, c'est qu'on peut avoir 50 livres sur l'Afrique noire, 50 livres sur la monnaie, 50 livres sur n'importe quoi, quoi. Que les gens puissent, sur un sujet donné, avoir le choix entre de nombreux livres.
Et justement, ben précisément ce que vous dites sur la librairie ancienne, vous voulez se demander, outre l'objet qui est donc un livre qui soit a une certaine valeur historique, soit au moins a déjà été utilisé, quelle serait la différence entre être bouquiniste et être libraire?
Libraire ancien, vous voulez dire, ou libraire tout court?
Ah non, libraire tout court, le libraire classique qu'on a en bas de chez soi, où on va acheter un livre de poche.
Ouais. Ah, il y a de nombreuses différences. D'abord, c'est pas du tout le même métier, donc on travaille. Ça ne se ressemble pas en termes de métier. Un libraire neuf, il a un catalogue, il connaît ses clients et la marchandise parce qu'il reçoit des comptes rendus chaque semaine et il va acheter ce qui l'intéresse. Son acte d'achat, c'est un acte de choix. Nous, il faut trouver les livres. C'est beaucoup plus difficile. Et puis après, le libraire neuf, il est contraint. Il achète à des éditeurs, le prix est fixe, et il vend à prix fixe. Moi, je n'ai aucune contrainte. J'achète comme je l'entends, je vends comme je l'entends. En termes de marchandises, c'est pas la même chose. Vous avez moins de 10% des livres qui sont disponibles. Donc quelqu'un qui cherche des textes, il va avoir recours à des librairies comme la nôtre, c'est-à-dire où il y a des choses qui sont qui ont été publiés il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans, parce que le texte n'est pas disponible autrement. Donc ce qui fait la valeur culturelle de nous, c'est ça.
Vous êtes surtout un conservateur.
Oui, c'est ça. C'est ça, et puis un favorisateur, puisque pour ce qui est ancien, alors ça va être cher, pas nécessairement beaucoup, mais quand même cher. Et pour ce qui est de l'occasion, parce que nous, on joue sur bouquiniste et livre ancien, on fait les deux. Ce qui est l'occasion, c'est les choses que vous pouvez acheter à la FNAC, mais vous allez les trouver quasiment à moitié prix chez nous.
Oui.
Donc vous avez le même livre, qui a déjà été lu, mais qui est moins cher.
D'accord. Oui. Et dans un lieu comme Diogène, il faut vraiment que les gens viennent se promener, s'arrêter vers des livres, etc. Donc quel est le type de public que vous accueillez?
On a tout. On a le touriste qui se promène dans le vieux Lyon et qui rentre par curiosité, qui va acheter un livre sur Lyon. On a le collectionneur qui a déjà 850 volumes sur les machines à vapeur ferroviaires et qui cherche ce qu'il n'a pas. On a l'étudiant qui fait une thèse sur les poteries macédoniennes et qui cherche ce qu'il n'a pas sur les poteries macédoniennes. Il y a les gens qui viennent lire, qui achètent leur littérature, il y a des gens qui bagnaudent et qui achètent un livre parce qu'il est beau, parce qu'il les intéresse. On a vraiment de tout. Voilà, c'est extrêmement divers.
Et donc finalement, comme vous dites, vous avez les gens qui sont de passage dans le vieux Lyon et les gens qui viennent exprès pour Diogène, etc. Est-ce que vous sentez que vous avez une espèce d'identité lyonnaise? Enfin, qu'est-ce que ça fait d'être à Lyon et pas à Paris, et dans le vieux Lyon et pas ailleurs?
Le quartier est agréable, parce que moi j'y travaille depuis longtemps, donc on se connaît. On a là, c'est une rue piétonne, dès qu'il fait beau, on mange dehors, on sort une table, et à midi, on mange dehors, tout en recevant des clients. C'est un privilège de pouvoir travailler dans des conditions pareilles. En échange, le quartier, depuis le développement du tourisme à Lyon, est devenu un quartier c'est le même public que la place Saint-Marc à Venise, où il n'y a pas une identité réelle, sauf celle d'être un quartier qui devient touristique au niveau mondial.
Bon, merci beaucoup. Alors, donc merci. On espère que les étudiants viendront augmenter le public de votre librairie.
Oui. En tout cas, nous, on va aller faire un tour. Plus loin de là.
Guilherme Pertu, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé la revue Hippocampe. Et pour commencer, comment est née cette revue?
Alors, c'est un projet qui est né en juin 2009. On arrive au cinquième numéro bientôt. Donc, c'est une revue semestrielle qui paraît tous les 6 mois, au mois d'avril et au mois d'octobre. L'idée est venue surtout quand j'ai monté un projet d'exposition à Genève, au Musée d'Art et d'Histoire, où j'ai travaillé sur le journal Labyrinthe, une publication périodique de Skira, le célèbre éditeur de livres d'art. Donc le travail sur ce projet d'exposition m'a permis de me tourner vers les revues des années 20, 30, début 40 aussi, la revue Minotaure par exemple, ou Documents, qui sont des références assez importantes pour moi, et qui m'ont permis d'étudier un petit peu ou de tenter de comprendre comment on faisait une revue, comment on mettait ensemble différentes contributions, des images, des textes, et comment tout ça pouvait fonctionner comme un montage. Et c'est à partir de cette idée que je me suis posé des questions sur comment aujourd'hui on pourrait faire ce genre de travail, avec les moyens contemporains, avec le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Et donc j'ai essayé avec deux amis de réunir des contributions pour un premier numéro, autour d'un thème, du thème des grottes. Et l'idée, c'était vraiment de créer un espace qui soit décalé de l'actualité et où les contributions puissent rentrer en friction et s'enrichir mutuellement, alors qu'a priori, les auteurs qui interviennent sont très différents, sont issus de disciplines variées, la littérature, les arts visuels, la philosophie, pour les trois grands piliers de la revue. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils ressortent des frictions, et j'aime bien ce terme, et que la revue soit le seul lieu où on puisse mélanger ce type de contributions, à la fois des universitaires, des artistes, éventuellement des journalistes, et qu'il y ait différents points de vue qui habituellement, dans une publication, par exemple universitaire, ne peuvent pas se rencontrer. Dans un journal, souvent, ils s'excluent également. Donc c'était de tirer parti de ce médium particulier de la revue pour faire émerger ces rassemblements.
Et donc vous publiez 2 numéros par an? Et l'un est consacré à un thème et l'autre à une zone géographique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce choix et sur la manière dont vous choisissez ou un thème ou telle zone?
Donc dès le départ, on s'est dit qu'il fallait quand même que chaque numéro soit thématique pour articuler les contributions et que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc effectivement, un thème du type la signature, par exemple, qu'on a traité au mois d'avril 2010. Ce sont des thèmes qu'on choisit
entre nous, avec notre petite équipe de 3 personnes, des thèmes qui nous paraissent assez efficaces ou assez intéressants dans le monde contemporain. Et puis, pour contrecarrer, pour une sorte de balancement par rapport à ces thèmes qui sont traités au mois d'avril, nous avons effectivement choisi de traiter de pays à l'automne, puisqu'il y a peu, en fait, de revues qui périodiquement, enfin qui très régulièrement, sont focalisées sur un pays ou une région. Et il nous paraissait intéressant, comme on paraît tous les 6 mois, de créer cette alternance. Et donc, en fait, la revue est plutôt conçue comme une parution thématique chaque année et une parution géographique.
Et du coup, en parlant de zone géographique, oui, qu'est-ce qui serait intéressant, si on vous interroge justement cette fois-ci, c'est parce que vous êtes une revue lyonnaise, ce qui n'est quand même peut-être pas si fréquent, mais sans doute que je me trompe. Et est-ce que ça vous donne une position particulière, vous oblige à des contraintes ou vous donne des avantages dans un pays aussi centralisé que la France, où pour la plupart des choses, des événements, notamment culturels, publications, tout ou beaucoup se passe à Paris?
Alors je dirais que pour le moment c'est plutôt un avantage, enfin je le prends plutôt comme ça. Oui. D'ailleurs, on a parlé à l'instant des numéros basés sur un pays ou une région. Le premier numéro de ce type était consacré à la Suisse. Et Lyon et la Suisse sont quand même des territoires assez proches. Et on a réussi dès le départ quasiment à mettre en place une sorte de lien privilégié avec la Suisse. Du coup, le centralisme parisien a été un peu détourné de cette manière. On est aussi assez proche de l'Italie, on est aussi très proche de Paris, donc aller rencontrer des contributeurs parisiens ou des artistes, ou c'est vraiment très facile également. Du coup, je trouve que la position est presque privilégiée, puisqu'il existe beaucoup moins de publications. Et du coup, on arrive peut-être à émerger aussi un peu plus facilement, à être visible des institutions, des grandes structures comme la DRAC, la bibliothèque municipale ou des structures comme ça en place. On arrive un peu plus facilement, il me semble, à les contacter, à les faire venir à des événements et à construire et à vraiment mettre en place une sorte de réseau local qui permet ensuite d'avoir une résonance au point de vue national.
Et précisément, en parlant de réseau et de visibilité, tout simplement, où est-ce qu'on peut trouver la revue à Lyon et ailleurs?
Alors, à Lyon, on est diffusé dans une dizaine de librairies, à peu près. Les principales librairies de la Presqu'île, par exemple. Et principalement, j'ai envie de citer la librairie Michel Descours, qui est une librairie spécialisée en art, architecture, design, et où on est particulièrement bien accueillis. Et donc c'est un lieu en plus extrêmement agréable à visiter.
Ultime question, quels sont vos projets pour vos prochains numéros, notamment le thème et le pays, pour allécher les lecteurs potentiels?
Alors le prochain numéro qui est vraiment en construction en ce moment et qui paraîtra à la fin du mois d'avril sera consacré à la question de l'exposition. Et puis à l'automne prochain, nous sommes en train de préparer un numéro sur la Catalogne. Donc on a parlé du pays, mais ça peut aussi être une région. Souvent, ce que j'aime dire, insulaire, enfin qui a une valeur insulaire. Donc là, on examinera d'un point de vue purement littéraire ou artistique ce qu'est la Catalogne, les échanges entre la France et l'Espagne par ce biais-là.
Bon, merci beaucoup.
Merci.
Bonne continuation.
Merci.
Merci à toutes ces belles institutions de nous avoir reçues. Vous pouvez retrouver les adresses de tous les lieux qui ont marqué notre promenade sur le site de Transistor.
Et nous nous retrouvons donc dès la semaine prochaine, Célia, pour une émission consacrée au polar à l'occasion du festival Quai du Polar. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à explorer le site de Transistor pour découvrir les autres émissions que nous vous proposons pour le spécial Lyon, et notamment Anormal, où Caroline vous présente la journée Altéridée qui sera organisée le 31 mars par plusieurs grandes écoles lyonnaises.
À très bientôt.